Ce soir, une enquête inédite sur l'argent du foot, un marché aujourd'hui de plusieurs milliards d'euros, pots de vin, commissions occultes, paradis fiscaux, fonds spéculatifs, les joueurs s'achètent et se vendent comme de simples produits financiers. C'est une enquête signée Benoît Colombat avec de nombreux témoignages d'agents, de présidents de clubs, de joueurs qui ont accepté de parler au micro de Secret d'Info. Voilà, c'est parti pour 40 minutes de décryptage de l'actualité et d'investigation.
France Inter, Secret d'Info, Mathieu Aron.
Pour moi, c'est d'abord un événement dont tu te souviens toute ta vie.
Bah ouais, c'est top. Et en plus, on va accueillir plein d'Européens.
Accueillir l'Euro 2016, c'est une vraie chance. Mais c'est surtout pour lui que je le souhaite.
Allez, venez ! Suivez-moi ! On compte sur vous. Et surtout sur toi. Parce que les Bleus ont besoin de toi.
Les Bleus ont besoin de toi, fiers d'être bleus, tous avec les Bleus. Dans quelques jours, la France va se mettre à l'heure de l'Euro de football. Toutes les stars européennes du ballon rond, ou presque, seront là. Mais derrière cette belle vitrine se cache un univers parfois beaucoup moins reluisant. Bonsoir Benoît Colombat.
Bonsoir Mathieu.
Pour Secret d'Info, vous avez enquêté sur l'argent du foot. En quelques années, les montants des transferts des joueurs ont littéralement explosé.
Oui, en 2014, le montant de ces transferts s'élevait à 3,6 milliards d'euros. Selon une étude de la FIFA, près de 30% de l'argent des transferts irait dans d'autres poches que dans celles des joueurs.
Mais alors, cet argent, il atterrit dans quelle poche ?
Celle d'agents, d'intermédiaires divers et variés, comme on a pu le voir récemment de manière assez spectaculaire dans l'affaire des transferts de l'Olympique de Marseille, révélée par le Canard Enchaîné. 65 millions d'euros détournés entre 2009 et 2012. Mais l'OM est loin d'être le seul club concerné. Selon l'ancien agent de joueur que nous avons joint à l'étranger, Patrick Mendelevitch, il s'agit de pratiques généralisées.
C'est consubstantiel. Transfert et argent occulte. Il ne peut pas en être autrement. Le prix du transfert soit inclut une rétrocommission, qui est le cas le plus fréquent, soit est accompagné d'un micmac d'une usine à gaz à côté, qu'on va appeler acquisition des droits à l'image, ou acquisition de ceci, ou acquisition de cela. Dans mon cas, qu'est-ce que j'ai constaté ? Que 90% des transferts ou des transactions se rapportant au transfert étaient pipés.
Et c'est pratique, vous avez pu rencontrer un ancien président de club qui en a été le témoin direct.
Oui, Luc Dayan, en 2007, il était président du club de Nantes quand un club étranger veut recruter l'un de ses joueurs.
Le président du club et les intermédiaires m'ont dit, écoutez, voilà, c'est simple sur le prix du transfert. Pour vous, en tant que président, c'est culturel, c'est normal, il y a tant.
Il vous propose une mallette.
Oui, oui, une petite mallette. Bon, j'ai pas ouvert, c'est quelque chose qui m'a complètement halluciné. Il est hors de question que j'accepte ça.
Assez effarant ce témoignage, mais tout le monde n'est pas aussi vertueux que Luc Dayan.
C'est le moins qu'on puisse dire, selon le journaliste de France 2, Alain Vernon, qui a enquêté sur le sujet. L'achat d'un joueur s'accompagne souvent de pots de vin.
On s'arrange sur un prix officiel d'un joueur. Et puis en réalité, on facture différemment. La différence revient en liquide grâce aux agents dans la poche des entraîneurs, des présidents, y compris les journalistes qui sont parfois récompensés d'avoir fait un beau papier dans un journal sur un joueur dont l'agent sera généreux par la suite. C'est de l'argent liquide, les noms n'apparaissent pas, c'est très difficile à prouver, mais ça existe depuis très longtemps.
Et ces pots de vin, on peut ensuite les dissimuler dans des tirelires qui sont très discrètes.
Les paradis fiscaux, comme en témoigne Patrick Mendelevitch, qui exerçait comme agent dans les années 2000.
En 2007, un certain nombre d'agents faisaient des transactions à partir de comptes bancaires ouverts au nom de sociétés basées dans des paradis fiscaux. L'agent en question disait, on est bien d'accord, monsieur le club acheteur, on va vous verser une com de 400 000 euros. Est-ce que ça vous convient ? Vous n'allez pas avoir des frais parce que les fonds que nous allons vous verser, votre commission, on va vous les verser sur un compte offshore.
Ça concernait un club français ?
Je ne répondrai pas à cette question. Rien n'a changé. Rien.
Et tout ça nous a été confirmé par un ancien membre des services de renseignement français qui a suivi à la loupe la trajectoire offshore du ballon rond.
Alors, cet argent noir qui circule au moment des transferts, toutes ces pratiques douteuses, elles sont possibles parce que le marché du foot a une particularité, Benoît Colomba.
Ben oui, le problème c'est qu'il n'y a pas de prix officiel des joueurs, ce qui permet toutes les dérives, explique le journaliste à Libération Grégory Schneider.
C'est une valeur à la loulou. Ce que vaut un joueur, c'est le prix de revente espéré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cote. Moi, je peux estimer que c'est un prix de revente. Vous, vous allez estimer que c'est un autre prix de revente. Un troisième va encore estimer un quatrième prix de revente et on aura tous raison. Par exemple, je vais prendre un gars, je l'achète 1 million parce que je vais le revendre 5. Donc, je vais faire une superbe bascule. En fait, le mec, c'est un tocard. Je vais le revendre 0. Mais le million a volé. C'est-à-dire que c'est un terrain pour le blanchiment qui est plus que précieux. Enfin, il est presque miraculeux.
Alors là, il faut qu'on s'arrête 30 secondes. Benoît, il faut que vous nous rappeliez le mécanisme du blanchiment.
Alors, c'est le fait de recycler de l'argent sale, trafic de drogue, évasion fiscale, trafic d'armes, recycler cet argent illégal dans un circuit légal, en l'occurrence le transfert d'un joueur. Alors par exemple, si un joueur vaut raisonnablement 1 million, on va le vendre 2 millions et au moment de son transfert, eh bien 1 million aura été blanchi.
Toutes ces opérations se font donc, on l'a compris, en marge des transferts. J'imagine pourtant que ces transferts doivent être contrôlés par la Fédération Internationale de Foot, non ?
Oui, mais c'est un contrôle très limité. Sur le papier, effectivement, la FIFA a mis en place un système baptisé TMS, Transfer Matching System. Ce système oblige les clubs à fournir tous les documents administratifs lors d'un transfert. Mais il y a des failles, estime l'expert Jean-François Brocard du Centre de droit et d'économie du sport de Limoges.
Ce dont on est certain, c'est que sur les transferts domestiques, donc au sein des ligues, entre deux clubs d'une même ligue, la FIFA aujourd'hui n'a pas accès à toutes les informations. Donc il y a toujours moyen de contourner les règles. On sait aussi qu'il y a des pays, des fédérations qui ne font pas tout pour que la transparence existe.
Et beaucoup de ces pays se trouvent sur le continent sud-américain.
Des failles dans le contrôle et du coup, il est quasi impossible de tracer cet argent qui circule.
Et c'est ce que déplore un fin connaisseur du système, l'ancien conseiller de Sepp Blatter, Jérôme Champagne, candidat malheureux à la présidence de la FIFA. Par le passé, il a plaidé pour une traçabilité des flux financiers en vain.
L'idée, c'était qu'on créerait une chambre de compensation financière. Si un joueur est transféré du club A vers le club B transférera la somme financière à la chambre de compensation. Ça imposera au club A d'indiquer à la chambre de compensation quels sont les destinataires des sommes de transfert. Mais la chambre de compensation n'a pas été créée. Ça permettra d'assurer la traçabilité et donc une transparence qui aujourd'hui n'existe pas.
Pas de réelle transparence et du coup, le football devient un terrain de jeu idéal pour toutes sortes de trafics.
Et c'est effectivement ce qu'a pu constater dans ces dossiers, il y a quelques années, l'ancien juge Eric Alphen.
Dans beaucoup d'affaires financières, on voit curieusement des relations entre le milieu, par exemple, du BTP, le milieu de la finance et le milieu du sport. Le BTP est quand même un des endroits où il y a le plus d'argent, donc un des endroits les plus sensibles au niveau de la corruption. Et évidemment, on voit les mêmes filières bancaires utilisées dans la corruption du BTP que dans le trafic d'armes ou de stupéfiants. Que pour un certain nombre de transferts sportifs. Il y avait un certain nombre de filières en Suisse, au Luxembourg, au Liechtenstein, en Allemagne et Autriche aussi, et puis évidemment dans certains paradis fiscaux, qui étaient exactement les mêmes, et c'était les mêmes personnes qu'on voyait.
Des connexions offshore entre le BTP et le monde du football, et parfois même des liens avec le grand banditisme.
Oui, on l'a vu à l'OM, ou il y a quelques années à Nice, mais c'est aussi le cas en Belgique. Écoutez le témoignage d'Edouard Vendel. En 2006, il était président du petit club de Moucron, près de la frontière française. Et voilà qu'un homme d'affaires kazakh assez particulier, Rakat Aliyev, veut racheter son club.
Il était président des services secrets du Kazakhstan, chargé de l'élimination physique des opposants à son beau-père, dictateur depuis 30 ans au pouvoir à la tête du Kazakhstan.
Et c'est lui qui voulait reprendre le club ?
C'est lui qui, par l'intermédiaire d'un bureau d'avocats genevois, se manifestait pour reprendre le club. Il avait également été mêlé dans des trafics portant sur d'énormes quantités de pétrole et qu'il avait des difficultés avec les grandes compagnies pétrolières américaines à ce sujet-là. On a voulu me contraindre à faire des négociations avec ce personnage. J'ai refusé. J'ai décidé à ce moment-là de partir en claquant la porte.
Edouard Vendel, contraint et forcé donc de quitter son club. Précisons que le sulfureux repreneur kazakh touche également de l'argent d'une multinationale française du sucre dans des paradis fiscaux. Quelques années plus tard, l'homme est arrêté par la police autrichienne. On l'a retrouvé pendu dans sa cellule à Vienne en février 2015.
Et on vous rappelle qu'on est en train de parler de football. Alors évidemment, avec ce type d'individu, comme ce repreneur kazakh, les risques de blanchiment sont démultipliés.
Un risque bien réel, selon un rapport publié en 2012 par Tracfin, le service anti-blanchiment de Bercy.
La prise de contrôle des clubs de football présentant des difficultés financières peut constituer une étape préliminaire facilitant les opérations de blanchiment dans le cadre de transferts de joueurs de football. Par ce biais, des montants importants sont susceptibles d'être blanchis et peuvent par la suite être réinvestis dans des sociétés de l'économie légale.
Une crainte partagée par l'ancien député François Daubert qui a beaucoup travaillé sur la corruption dans le sport.
L'argent des mafias, l'argent des trafics humains, aujourd'hui, ce qui se passe dans les Balkans, il y a des masses gigantesques d'argent qui sont en cause. Où est-ce que ça atterrit? Dans quel fonds? Dans quel club? Le risque n'a jamais été aussi grand de voir le football investi par de l'argent sale.
Le risque n'a jamais été aussi grand, hein, nous disait il y a quelques secondes François Daubert. Dans ces conditions, Benoît Colombat, pourquoi les clubs ne se montrent-ils pas plus prudents?
Le problème, c'est que bien souvent, ils sont pris à la gorge financièrement, et c'est aussi le cas en France. Hein, la plupart des 40 clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 sont déficitaires. 93 millions d'euros de pertes nettes cumulées pour la saison 2013-2014, et encore sans les abandons de créances des actionnaires. Sans ça, le déficit des clubs français s'élèverait à 217 millions d'euros.
Et cette fragilité des clubs, elle est aussi, et c'est important hein, de le souligner, accentuée par la frilosité des banques.
Oui, des banques qui désertent désormais les terrains de football. Luc Dayan, spécialisé dans la reprise des clubs en difficulté, est bien placé pour le savoir.
Demandez au Crédit Agricole ou aux banques françaises, il n'y a plus une banque qui prête dans le foot. On vous dit non, on ne veut plus toucher à ce secteur d'activité.
Bon.
Mais oui, parce qu'effectivement, c'est un secteur à risque, à haut risque, et les banques ne prêtent pas.
Des banques qui refusent de prêter, des clubs qui sont aux abois, et donc qui peuvent être tentés par des solutions hasardeuses.
Oui, cette précarité les rend vulnérables, explique le chercheur à l'IRIS et spécialiste du sport Pim Verschuren.
Il y a 3 ans, il y a des journalistes flamands en Belgique qui sont allés voir plusieurs clubs de première division et de seconde division belge en leur disant, voilà, on est des investisseurs, on a de l'argent qui provient de trafic illicite, mais on est en capacité de racheter votre club avec ses fonds et d'éponger toutes vos dettes. Et la majorité des clubs a accepté la proposition de ces journalistes d'investigation déguisés en investisseurs. Il y a une très forte inégalité entre plusieurs clubs à l'échelle européenne, mondiale, qui brassent énormément d'argent, mais le reste du football est précaire. Donc forcément, quand un investisseur amène des fonds et propose de racheter toutes les dettes, bah, les propriétaires des clubs sont ravis d'accepter sans vérifier l'intégrité de l'argent qui est proposé.
Alors, il n'y a pas que la Belgique. Hein. En France, où des clubs ont aussi du mal à boucler leur budget, on voit également des accords plutôt étranges.
Exemple avec l'AS Nancy-Lorraine qui a trouvé un banquier très particulier, à savoir l'un de ses concurrents, Monaco. Oui, parce que la saison prochaine, les deux clubs se retrouvent dans le même championnat. En septembre 2015, Monaco et Nancy concluent un accord. Monaco avance 2 millions d'euros à Nancy et en échange peut récupérer certains de ses joueurs.
Mais alors du coup, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour la compétition sportive, tout simplement?
Si, justement, l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels, l'UNFP, dénonce cet accord et je vous le révèle ce soir, il vient de saisir l'autorité de la concurrence, car pour le président de l'UNFP, Philippe Piat, les règles du jeu ne sont plus respectées.
Ça pose un problème de concurrence incroyable. C'est-à-dire qu'un club a le droit de préemption sur des joueurs. Ça veut dire que si d'autres clubs voulaient, pourquoi pas, surenchérir et obtenir la signature de ces joueurs pour se renforcer, ils ne le pourraient pas puisque Monaco, en l'occurrence, aurait un droit de préemption. Comment on peut, un salarié, lui dire « tu vas aller travailler chez un autre employeur sans qu'il sache combien il va gagner, quand ça va se faire, sans son accord ?» Non, mais c'est vraiment de l'esclavage.
De l'esclavage, des clubs qui se prennent pour des banques qui ne veulent plus prêter, qui ne veulent plus prendre de risques. Conséquence, d'autres acteurs financiers, eux, eh bien, ont flairé la bonne affaire.
Ce sont les fonds spéculatifs, la plupart du temps domiciliés dans les paradis fiscaux. Alors, ils font ce qu'on appelle du trading joueur. Ils investissent en jouant sur la cote des joueurs, un peu comme s'ils investissaient sur des actions. L'objectif, c'est de faire augmenter la valeur des joueurs pour, à chaque transfert, faire une culbute la plus importante possible.
Et ces fonds, hein, d'ailleurs, ils ne s'en cachent nullement.
Non, comme le fonds Fairplay Capital, basé au Luxembourg. Sa plaquette publicitaire annonce clairement la couleur.
L'activité consistant à miser sur le potentiel de valorisation des joueurs achetés puis à revendre ces derniers dans un délai souvent très court offre des perspectives exceptionnelles de rentabilité.
Et pour l'un des fondateurs de Fairplay Capital, l'avocat Pierre Maté, qui est également mandataire sportif, l'équivalent d'un agent de joueur, quasiment tous les clubs qu'il a rencontrés sont intéressés par ses services.
Il y avait un manque criant de liquidité et auquel il fallait pallier.
Quels clubs vous ont dit qu'ils étaient intéressés par votre initiative?
La quasi-totalité des clubs sondés.
Des clubs français ?
Clubs français, clubs étrangers. Sauf les clubs qui disposent d'actionnaires qui ont des surfaces financières illimitées. Moi, ce qui m'intéresse dans cette activité, c'est faire passer le football dans une nouvelle ère. Tous les secteurs d'activité sont passés dans une ère de financiarisation, on va dire. Et il n'y a que le football, dans lequel les enjeux économiques sont très importants, qui reste sous-développé en matière financière.
Une nouvelle ère, donc celle de la financiarisation du foot, avec pour cible principale pour ces fonds spéculatifs les clubs en difficulté, donc souvent des clubs de taille moyenne.
C'est ainsi que le club de Nice a récemment failli être racheté par le patron d'un fonds d'investissement britannique, Edward Blackmore, associé à un prince saoudien.
Et puis il y a un autre cas intéressant, c'est celui du club de Sochaux.
Un club historiquement lié au groupe PSA Peugeot Citroën, mais en juillet 2015 une page se tourne, le FC Sochaux-Montbéliard est racheté 7 millions d'euros par une entreprise chinoise, la société Ledu, spécialisée dans les systèmes d'éclairage basse consommation. Mais quand on épluche son bilan annuel, on s'aperçoit que cette société est domiciliée aux îles Caïmans. Pas vraiment un gage de transparence, explique Manon Aubry, spécialiste de l'évasion fiscale à l'ONG Oxfam.
Les îles Caïmans, c'est un peu la caricature du paradis fiscal qui coche toutes les cases. Il y a à la fois une opacité totale sur, par exemple, l'identité des bénéficiaires effectifs des sociétés écrans. Il n'y a pas d'impôt, tout court, pas d'impôt sur le revenu, pas d'impôt sur les sociétés, pas d'impôt sur les dividendes. Et puis, par ailleurs, pas de contrôle sur les marchés financiers. Donc, si vous voulez aller prendre des risques sur les marchés financiers, les îles Caïmans sont la place idéale.
Alors, on continue à notre tour de France des clubs. Il y a un autre club qui vient de changer d'actionnaire, le Racing Club de Lens.
Et le tribunal de commerce de Paris vient d'autoriser la reprise du club par un fonds luxembourgeois baptisé Solferino, un fonds qui détient 65% du RC Lens. Alors, derrière Solferino se trouve un fonds spéculatif, Amber Capital, dirigé par un Français, passé par la banque Lehman Brothers et Goldman Sachs. Un bel exemple de l'évolution du foot business, décrypte Dominique Rousseau, auteur d'un blog très informé sur le sujet.
Amber Capital, la holding qui est basée en fait à New York, détient des parts d'un club colombien parce qu'il y a des affaires qui se font dans le pétrole colombien. Alors, on se pose la question maintenant à Lens, pourquoi tout d'un coup ce fonds spéculatif qui est un gros fonds, ils ont un portefeuille d'1,7 milliard d'affaires, et donc pourquoi ils arrivent là? Ça montre bien que la financiarisation du foot est effective avec des gens qui ne sont là que pour la spéculation.
Signalons que le RC Lens a une autre particularité, c'est qu'en plus de ce fonds, il a un autre actionnaire, l'Atlético Madrid, un grand club espagnol. Mais alors du coup, Benoît, si par hasard ces deux clubs s'affrontaient un jour en Coupe d'Europe, on peut rêver, il n'y aurait pas un petit souci?
Si, à ce moment-là, il est prévu que l'Atlético Madrid cède ses parts au fonds d'investissement Solferino. De son côté, le président lensois Gervais Martel assure que toutes les garanties ont été données à la DNCG, la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, le gendarme du football français.
Sauf que ce gendarme, cette direction, on peut s'interroger sur ses pouvoirs de contrôle.
Disons que c'est un contrôle assez formel. La DNCG n'a pas le pouvoir de vérifier l'origine des fonds, comme le reconnaît lui-même le président de la commission juridique de la Ligue de football, André Soulier.
Ce que nous voulons, c'est des moyens de contrôle des finances. Nous n'avons pas de structure qui soit suffisante. Nous ne sommes pas suffisamment armés. On a une direction nationale de contrôle de gestion remarquable.
Elle n'a pas les moyens de faire la police?
Non, elle ne peut pas mener d'enquête. Nous devons savoir d'où vient cet argent. Qui sont les investisseurs? Qui sont les actionnaires? Vous savez, les Chinois ont une formule qui m'a toujours ravi. Ce qui est important, c'est ce qui est derrière le rideau. Ça s'appelle les ombres chinoises. Je trouve qu'en ce moment, nous avons beaucoup d'ombres chinoises.
Beaucoup d'ombres chinoises, dit l'avocat André Soulier. Et parmi ces fonds spéculatifs, parmi ces nouveaux acteurs de ce foot business, il y en a un sur lequel vous vous êtes arrêté, Benoît. Il s'appelle Doyen Sport. Expliquez-nous.
Alors, Doyen Sport, c'est la branche d'un groupe beaucoup plus large, une holding britannique spécialisée dans l'énergie, la finance, le transport et la construction. Doyen Sport est installé à Londres, mais enregistré à Malte, bien connu pour sa douceur fiscale. Le fonds assure que tout est clair, mais jusqu'ici, il n'a pas rendu public le nom de ses actionnaires. Alors, en résumé, Doyen Sport est à la fois un banquier, un agent et un gestionnaire d'image dans le monde du sport. C'est un acteur majeur de ce business, il a une capacité d'investissement évaluée entre 5 et 6 milliards d'euros.
Et ce fonds, Doyen Sport, il intervient aussi en France?
En tout cas, Doyen Sport affirme qu'il veut investir dans le football français. On l'a vu récemment dans les coulisses de l'OM. Doyen Sport a notamment favorisé l'arrivée de l'ancien entraîneur du club marseillais et le transfert de deux joueurs.
Alors, ce n'est pas tout. Ce fonds, c'est aussi spécialisé dans une pratique qui pour le moins pose question.
Il s'agit de la tierce propriété, en anglais la TPO, Third Party Ownership.
Et cette TPO, ça fonctionne comment ?
Alors en échange de l'argent qu'il avance au club, le fonds devient propriétaire d'une partie du joueur, un peu comme si le joueur était une entreprise cotée en bourse et que le fonds achetait une partie des actions du joueur. Pour le fonds, le retour sur investissement se fait au moment où le joueur en question est transféré.
Ce qui fait qu'on peut imaginer que plus le montant du transfert est important et plus le fonds va gagner de l'argent.
Et c'est ça le principe. Si le fonds, par exemple, a acheté 50% des droits du joueur, eh bien, il va toucher 50% du montant du transfert. Cette technique s'est d'abord développée en Amérique latine dans les années 80 et puis dans les pays du sud de l'Europe, notamment en Espagne et au Portugal.
On a quand même le sentiment à vous entendre qu'avec cette TPO, le joueur ne s'appartient plus vraiment à lui-même.
C'est le premier problème avec la TPO. Le joueur n'est plus maître de son destin, estime le président du syndicat international des joueurs, Philippe Pia.
Ça veut dire qu'il y a une interférence sportive dans un club, puisque le club, s'il veut rembourser au fonds de pension, il faut qu'il vende ses joueurs avec la pression qu'on peut avoir. Et l'intérêt du fonds de pension, c'est que les transferts soient multipliés. Sur le plan sportif, c'est inacceptable. Un homme est un produit et nous luttons contre ça.
Des hommes qui deviennent des produits, sans compter aussi des risques de conflits d'intérêts.
Avec des risques de matchs arrangés, si des joueurs appartenant au même fonds jouent l'un contre l'autre, explique l'économiste du sport Jean-Pascal Gaillan.
Il y a une possibilité de manipulation malgré tout, parce que des fonds vont détenir des créances sur de très nombreux joueurs qui peuvent être dans des équipes différentes. Et on a possibilité de voir des ententes pour faire briller tel ou tel joueur, parce que l'importance, ça va être le montant de la revente. C'est là qu'on va faire vraiment un gros bénéfice. Toute l'activité de ces fonds est basée sur la perspective de faire de grosses plus-values à la revente.
Alors, toutes les bizarreries que vous venez de nous exposer expliquent que, officiellement en tout cas, cette TPO a finalement été interdite.
Oui, alors elle était d'abord interdite en Angleterre, en Pologne, en France. Et depuis le 1er mai 2015, cette pratique est désormais bannie dans tous les pays. Quelques clubs ont déjà été condamnés par la FIFA à des amendes, comme le club belge de Seraing, racheté en 2013 par un club français, le FC Metz.
Officiellement, cette TPO est donc proscrite, mais dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que ça.
Un peu probable, effectivement, que cette pratique disparaisse vraiment, estime Thomas Fratello, qui travaille sur les risques de blanchiment dans le football.
Le problème, c'est que cette pratique est très diffusée en Amérique du Sud, et l'Amérique du Sud est un vivier de joueurs pour l'Europe. Ça pose des problèmes parce que les clubs n'ont pas renoncé à acquérir des joueurs argentins ou brésiliens sous prétexte qu'une partie de leurs droits commerciaux sont détenus par un investisseur privé. Le fait est que les clubs ont besoin d'argent, donc nécessairement, le phénomène va se développer de lui-même.
Un phénomène qui va se développer, et pour les clubs français, c'est un peu le casse-tête.
Et comment être sûr qu'il n'y a pas une TPO, une participation cachée d'un fonds sur un joueur ? La réponse du président des Girondins de Bordeaux, Jean-Louis Triaud.
Nous, quand on fait un transfert de joueur, on déclare qu'il n'y a pas de TPO, et quand on en fait venir un de l'étranger, on demande le même document. Or, il se trouve que pour un joueur brésilien, notre défenseur central, Pablo, il y avait un TPO, mais on a reçu les garanties de déclaration qui devaient être officialisés et qui l'ont été auprès de la Fédération brésilienne. Ils avaient légalisé leur situation, on a eu ce document qui nous a garanti.
Après, évidemment, vous n'avez pas les moyens de vérifier.
Bon, évidemment, non.
Pas toujours évident donc pour les clubs français de s'y retrouver. Et puis surtout, la loi pourrait changer. Rien ne garantit, Benoît, que cette TPO va rester à tout jamais interdite.
Parce que le fonds Doyen Sport conteste cette interdiction devant la justice, soutenue également par les fédérations espagnoles et portugaises. La Commission européenne est également saisie. Pour l'avocat de Doyen Sport, Emmanuel Daoud, cette interdiction est contraire aux traités européens.
C'est contraire à la libre circulation des capitaux, c'est contraire à la libre circulation des travailleurs, c'est contraire à la libre circulation des prestations de services. Doyen se présente comme un investisseur vertueux qui est là pour aider à la libéralisation du monde du football et notamment de lutter contre les monopoles et les cartels. Le club conserve une liberté totale quant à la politique de recrutement et de cession de ses joueurs.
Une liberté totale pour les clubs, dit l'avocat de Doyen Sport. Est-ce que c'est exact ?
J'ai trouvé au moins un cas où ça ne s'est pas passé comme ça, c'est celui du transfert du joueur français Geoffrey Kondogbia. Au moment où la société Doyen Sport en fait l'acquisition avec le club de Séville, une clause apparaît noir sur blanc, une clause lue par Jacques Monin.
Le club de Séville et Doyen se verront dans l'obligation de transférer le joueur à n'importe quel moment à partir d'une offre ferme égale ou supérieure à 6 millions d'euros.
Alors le deal paraît donc clair, si un club met au moins 6 millions sur la table, eh bien le joueur doit obligatoirement être transféré. On peut signaler qu'ensuite ce joueur a été transféré à Monaco, puis à l'Inter de Milan pour 40 millions d'euros. Contacté, Doyen Sport explique qu'il y aurait cependant d'autres clauses qui permettraient au club de garder le contrôle sur son joueur.
Ce document qui vient de nous être lu, c'est intéressant. On le retrouve sur un site internet baptisé Football Leaks.
Oui, un site portugais, Football Leaks, l'équivalent de Wikileaks pour le football. Des centaines de documents confidentiels et de contrats de joueurs qui révèlent la face cachée de ce foot business. Pour l'un des meilleurs spécialistes de la financiarisation du football, l'italien Pippo Russo, cela montre bien que Doyen Sport fait désormais la pluie et le beau temps dans le football mondial.
Doyen impose ses joueurs. Pour chaque transfert, il y a du paiement, des commissions à des sociétés qui sont proches de Doyen. C'est un problème. C'est un système d'influence très lourd qui peut conditionner, peut influencer les acteurs du football. Nous n'avons plus de liberté de concurrence entre joueurs. La raison sportive passe derrière la raison économique financière. Les joueurs deviennent un produit financier. Il est important qu'ils circulent et qu'ils se valorisent.
Bon, j'imagine que Doyen Sport ne doit pas vraiment avoir la même analyse que Pippo Russo.
Évidemment, écoutez son porte-parole Francisco Ampis.
Ce que nous faisons, c'est de l'investissement avec des clubs sur le marché des transferts. Donc, qu'on puisse influencer tous les clubs et toutes les fédérations, c'est un peu de la théorie de la conspiration.
Conspiration, enfin bon, Doyen Sport est quand même un acteur incontournable de ce foot business qui lui existe bel et bien. Alors on l'a compris, pour faire monter le prix d'un joueur, il doit donc circuler entre différents clubs. Et pour ça, il y a même des clubs vitrines et c'est par exemple ce qui se passe, Benoît Colomba, à Monaco.
Avec le rôle clé joué par l'agent portugais Jorge Mendes, l'agent notamment de la star du Real de Madrid, Cristiano Ronaldo. Explication de la méthode Mendes par le journaliste Grégory Schneider.
Mendes, il se dit quoi ? Il se dit que je vais utiliser Monaco comme une vitrine pour valoriser mes propres joueurs. Et les faire tourner. C'est-à-dire vous avez la vitrine de Ligue 2, la vitrine de Ligue 1, la vitrine de Ligue des Champions, la vitrine espagnole, la vitrine portugaise. Je profite du club pour les faire tourner. C'est une sorte de dépôt-vente. Un club, c'est une coquille vide, en fait. La notion de club et l'identité de club volent en éclats, si vous voulez.
Alors évidemment, Jorge Mendes dispose lui aussi de son propre fonds d'investissement dans le paradis fiscal de Jersey. Il vient également de conclure un partenariat stratégique avec un important fonds d'investissement chinois qui veut investir à son tour dans le football.
On va quand même être clair, faire tourner des joueurs, il n'y a pas qu'à Monaco que ça se passe comme ça. C'est aussi le cas en Belgique.
Dans le club de Moucron, par exemple, vous vous souvenez, ce club qui a failli être racheté par un Kazakh aux méthodes mafieuses. En 2011, un club français, Lille, devient actionnaire majoritaire de Moucron. Et puis l'an dernier, nouveau changement d'actionnaire. Le patron d'une chaîne sportive israélienne, Hadar Zahavi, rachète le club par le biais d'un fonds domicilié à Malte.
Mais derrière le repreneur officiel de ce club belge, il y a encore un autre personnage. C'est un vrai roman policier que vous nous racontez, Benoît Colomba.
Ah oui, parce que derrière le repreneur officiel, il y a son oncle, Pini Zahavi, un ancien journaliste sportif devenu agent de joueur. C'est un autre acteur très influent de ce foot business. Pini Zahavi est notamment proche de l'oligarque russe qui a racheté le club anglais de Chelsea. Alors Moucron, c'est une belle opportunité pour faire circuler ses joueurs, notamment depuis Chypre, où Pini Zahavi a aussi ses entrées. Du coup, certains joueurs se retrouvent sur la touche. C'est ce qui est arrivé à Florian Delestrin qui jouait dans l'équipe réserve, l'équipe B de Moucron.
On s'est retrouvé avec un effectif de 55 joueurs.
Et avec des joueurs qui venaient d'où ?
D'un peu partout. On a eu des Portugais, une grosse partie de joueurs venant des Balkans, des Serbes, des Croates, qui étaient de passage en grande partie. C'est plus le même club parce que à l'échelle de la région, Moucron était un club familial qui savait former. Cette image-là a été complètement détruite. C'est un club de mercenaires et puis voilà, on se retrouve avec un club sans identité au final.
55 joueurs mercenaires. On rappelle que le foot, c'est ce que je crois en tout cas, ça joue à 11. Alors du côté du club de Moucron, qu'est-ce qu'on répond à ces mises en cause ?
Alors pour son président Edouard Vandal, le modèle sportif du club n'a pas changé. Quant à l'agent Pini Zahavi, ce qu'il fait à Moucron, eh bien, il le fait dans d'autres clubs.
Si vous lisez la presse belge bien informée, M. Pini Zahavi est sans doute le principal fournisseur actuel du club d'Anderlecht.
Ça veut donc dire qu'il n'y a pas un mouvement d'affaires totalement dédié. Nous avons un noyau de joueurs qui était fort important durant la saison sportive écoulée. Et M. Pilizavi était l'un des agents qui nous a effectivement proposé des contrats de joueurs parmi d'autres agents. Est-ce que ça lui donne un pouvoir dans le club? Je ne le pense pas.
Au-delà du cas du club de Moucron, plus globalement, ces clubs passerelles qui font tourner les joueurs, eh bien, ces clubs, ils sont en train de se multiplier.
Ce qui n'est pas pour rassurer l'ancien membre du service central de prévention de la corruption, Noël Ponce.
C'est un jeu de société écran qui permettent de facturer de l'un à l'autre, de faire tourner, de faire revenir. Finalement, c'est une sorte de jeu de pion où on va faire tourner les personnes, étant entendu que chaque promenade vaut 2, 3 millions, que ces 2 ou 3 millions seront partagés entre un certain nombre de personnes. Ça permet de blanchir beaucoup d'argent. Pourquoi ? Parce qu'en faisant tourner les joueurs et les ventes et les achats de joueurs, ça permet de créer une sorte de rotation constante qui fait tourner les fonds. C'est une véritable lessiveuse. Al Capone n'y avait pas pensé. Si j'étais mafieux, je pense que c'est une bonne opération là, à faire.
Alors, Benoît Colomba, on va encore rester quelques instants, non pas à Chicago avec Al Capone, mais en Belgique, car vous nous présentez un autre acteur clé de la financiarisation du foot.
Il s'appelle Lucien Donofrio. Cet agent a eu des clients prestigieux comme Zinedine Zidane ou Didier Deschamps, mais il a eu aussi quelques soucis avec la justice. Officiellement, il n'a plus l'autorisation d'exercer comme agent puisqu'il a été condamné à de la prison ferme en France, dans l'affaire des comptes de l'OM, condamné également dans l'affaire de la Caisse Noire de Toulon. Par ailleurs, il a joué un rôle trouble dans les transferts de l'actuel défenseur des Bleus, Eliakim Mangala. Alors avec le journaliste belge David Leloup, qui a beaucoup enquêté sur Lucien Donofrio, nous nous sommes rendus chez lui à Liège.
On est rue Bonne Fortune à Liège, derrière la cathédrale, dans le quartier historique. Et c'est ici qu'habite Lucien Donofrio, ça ne s'invente pas. Et donc il a racheté un hôtel particulier de maître qu'il a fait rénover pour le montant astronomique de 5 millions d'euros. Ce bâtiment a été saisi par la justice, une saisie conservatoire, dans le cadre de l'enquête pour blanchiment dont il est le personnage central.
Oui, bonjour, j'aurais voulu parler à Monsieur Donofrio, s'il vous plaît. Je suis journaliste à la Radio France Inter et je suis en train de faire un reportage sur les transferts du joueur Eliakim Mangala dont il s'est occupé.
On n'est pas ici pour le moment, monsieur.
Merci.
Pourquoi ?
Son surnom, c'est Lucien le Malin.
Il était peut-être là ?
Je pense qu'il était là, oui. J'ai cru entendre sa voix derrière.
Bon, peut-être là, peut-être pas là. En tout cas, ce Lucien Donofrio, vous avez aussi essayé de le joindre par téléphone.
Sans succès non plus, il faut dire que l'homme n'aime pas beaucoup la lumière. C'est un spécialiste des montages offshore, explique David Leloup.
Il dispose de toute une galaxie de sociétés offshore pour toutes ses activités, en fait. Donc là, on est dans le volet blanchiment d'argent, puisqu'il y a une enquête judiciaire diligentée à Liège depuis 2004. J'ai dénombré plus d'une dizaine de sociétés offshore, au Panama, aux îles Vierges britanniques, à Chypre, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne.
Et parmi les joueurs qu'a suivi Lucien Donofrio, il y a donc le défenseur Eliakim Mangala.
Oui, en 2011, le joueur passe du Standard de Liège à Porto pour 6 millions d'euros. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une opération financière sur le joueur. Doyen Sport prend une option de 33% sur Mangala. Lucien Donofrio en prend 10%, lui, par le biais d'une société basée à Londres.
En fait, à vous écouter, on se partage un petit peu ces joueurs comme si on vendait des appartements à la découpe, c'est ça
Et ça rapporte toujours plus, car finalement, en 2014, Mangala est vendu au club anglais de Manchester City pour 54 millions d'euros. Il devient alors le défenseur le plus cher du monde. L'occasion d'une juteuse culbute financière pour Lucien Donofrio, dévoile David Leloup.
Ces 10%, il les a revendus à Manchester City. Donc le montant qu'il avait a été multiplié par 8,3. Une plus-value de plus de 4,5 millions en 3 ans. C'est gigantesque, c'est énorme. Vous ne trouverez jamais de tels rendements avec n'importe quel produit financier. Ça défie toute logique.
Et il faut préciser, Benoît, qu'une enquête a été ouverte par la FIFA sur le rôle joué par Doyen Sport dans le transfert de Mangala à Manchester City.
Enquête toujours en cours, nous dit la FIFA, sans plus de commentaires. Quant à Lucien Donofrio, il a transféré ses 10% du joueur Mangala vers une autre société opaque en Autriche, elle-même détenue par une offshore chypriote pilotée par l'un de ses proches. Il a également négocié avec la justice belge le paiement d'une forte somme d'argent pour éviter un procès dans l'enquête pour blanchiment.
On arrive au terme de votre enquête, Benoît Colomba. Une dernière question. Avec cet argent qui coule à flot dans le foot, est-ce qu'il n'y a pas le danger d'une bulle financière qui pourrait un jour exploser?
Ben oui, d'autant plus que certains fonds spéculatifs se sont spécialisés justement dans le rachat des créances de clubs, comme la société londonienne 23 Capital, des dettes de clubs saucissonnées en quelque sorte, puis vendues sous forme d'obligations à des investisseurs. Pour le meilleur et pour le pire, analyse l'économiste Jean-Pascal Gaillan.
C'est exactement comme le marché de l'immobilier aux États-Unis avant la crise des subprimes. On achetait sa maison sans argent sur la base de ce que la revente de cette maison dans 5 ans me rapporterait plus, et donc je pouvais rembourser une maison que je n'avais pas les moyens de m'acheter. C'est pareil, là on dit vous allez avoir des footballeurs qui vaudront 200 là où vous les avez achetés 100. Si vous les revendez 80, le dispositif s'écroule, les titres ne valent plus rien, les investisseurs sont ruinés, c'est une bulle qui éclate. Oui, on pourrait imaginer qu'une crise des soccer bonds soit la nouvelle étincelle pour une crise financière.
Un risque de crise comme celle des subprimes, de l'argent sale, une hyper-financiarisation du foot. Merci Benoît Colomba pour cette enquête très riche et passionnante. Une enquête qui est à retrouver également en texte et en vidéo sur le site franceinter.fr et sur la page Facebook de Secret d'Info. Voilà, c'est la fin de Secret d'Info. Merci à notre réalisateur Christophe Imbert et à Rebecca de Nantes. Merci également à la technique, à Sandrine Laurent, à Mehdi Fatah et à Florent Layani.